Vous êtes sur RTL.
Place à l'info RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. La fin de vie, voilà un sujet qui nous concerne ou nous concernera tous un jour. Mais peut-on débattre de l'euthanasie en 3 heures? C'est ce que s'apprête à faire l'Assemblée nationale demain. La présidente de la commission des lois, Yael Braun-Pivet, fait partie de ceux qui veulent faire évoluer les textes, faire évoluer les règles. Elle sera notre invitée tout à l'heure à 18h15. À 18h35, c'est un artiste en devenir et un homme touchant qui sera avec nous. Il s'appelle Luc Laversane. Beaucoup l'ont découvert dans The Voice quand il a surpris tout le monde en interprétant le chant des partisans. Luc Laversane a une voix peu ordinaire et déjà une histoire extraordinaire. Il viendra nous la raconter tout à l'heure. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres dans l'actualité de ce mercredi 7 avril.
Et à la une ce soir du foot, suite des quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG affronte le Bayern Munich. Sacré morceau, nous irons sur place dans un instant. Dans ce journal également, l'Agence européenne du médicament qui réaffirme son soutien au vaccin AstraZeneca. Et puis la présidente de la Commission européenne, privée de chaise hier lors d'un entretien avec le président turc Erdogan. Elle dénonce ce soir un affront sexiste. L'affaire a même déjà un nom, le Sofagate.
Le Sofagate. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Pour le Météogate de demain, il y aura encore pas mal de gelées.
Et oui, de nombreuses et assez fortes. Moins 6 à Nevers, moins 4 à Lyon, moins 2 à Lille comme à Agen. 2 degrés à Paris. Et la bonne nouvelle, c'est que les maximales vont remonter. Elles seront même au-dessus des normales dans le sud, comprises entre 15 et 22 degrés. La hausse sera plus relative dans le nord, de 10 à 15 degrés côté ciel. Une belle journée largement ensoleillée au sud de la Loire. Un peu plus de nuages au nord, surtout l'après-midi. Ça soufflera un peu près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Et pour commencer, direction donc Munich, le PSG va tenter ce soir de reprendre des couleurs. Quart de finale, je vous le disais, aller de la Ligue des Champions face au Bayern. Bonsoir Nicolas Georgerot.
Bonsoir.
Vous êtes sur place pour RTL. Bayern-PSG, c'était, on s'en souvient, l'affiche de la finale l'an dernier. Et cette année encore, les Allemands, champions d'Europe en titre, restent ultra favoris.
Oui, si on veut résumer, c'est le PSG face à ce qui se fait de mieux en Europe en matière de football actuellement. Une équipe qui n'a plus goûté la défaite en Ligue des Champions depuis mars 2019, qui vient de gagner 6 trophées en 2020. La moindre inattention, le moindre écart sont très souvent sanctionnés. Il faut une exigence de tous les instants, exhorte le capitaine Marquinhos.
Ça passe par des petits détails. Et des petits détails, c'est depuis des occasions que tu dois marquer pour changer l'histoire d'un match. Tout le monde est conscient que ça va se passer par des petits détails importants.
Pour les Parisiens, surtout éviter le coup de froid au propre comme au figuré dans cette Allianz Arena glaciale. Ne pas hypothéquer toutes les chances dès le match aller, avant le retour qui arrivera vite dans une semaine au Parc des Princes.
Alors Nicolas, ce match il a bien sûr lieu à huis clos, hein, sans public compte tenu des restrictions sanitaires. Et les rares supporters du PSG qui sont sur place se font tout petits.
Oui, des Français expatriés installés ici comme Guillaume qui regardera le match ce soir avec ses voisins bavarois et qui espère avoir le dernier mot.
C'est aussi dans la culture bavaroise cette confiance un peu extrême. Ils ont une confiance en eux, ils ont jamais peur de rien. Et donc là, vu les derniers résultats, encore moins. Donc non, ça va être un match compliqué contre eux. Justement, c'est un peu le gré de ça. Et sur des matchs comme ça, c'est parfait. C'est l'occasion de se mettre un peu en contradiction avec la culture. C'est même agréable. Ouais. Si Paris gagne, ça sera encore mieux.
Comme en 1994, peut-être la seule fois où le PSG s'est imposé ici. À Neymar, à Mbappé, peut-être d'imiter Georges Weah à hauteur ce soir-là d'un but d'anthologie en Bavière.
Mbappé qui n'était pas né en 1994. Merci Nicolas Georgerot en direct de Munich pour RTL. On vous retrouvera tout au long de la soirée. Bayern-PSG, c'est à suivre bien sûr en direct sur votre radio dès 20h45.
Et sur le front du Covid, l'Agence européenne du médicament confirme ce soir un possible lien entre thrombose et AstraZeneca. Pas question pour autant d'arrêter la vaccination à la balance bénéfice-risque, dit-elle, est largement positive.
Les experts ont conclu que les rares cas de thrombose survenus après l'injection du vaccin AstraZeneca doivent être mentionnés dans la liste des éventuels effets indésirables. Ce vaccin a prouvé qu'il était très efficace pour prévenir les cas sévères, les hospitalisations et pour sauver des vies. Et nous devons l'utiliser. Les bénéfices du vaccin AstraZeneca dépassent largement les risques encourus.
Nous devons l'utiliser, dit ce soir Emer Cook, la directrice générale de l'Agence européenne du médicament. Dans le même temps, les autorités britanniques, elles, recommandent de limiter l'usage de ce vaccin au plus de 30 ans. Chez nous, ici en France, l'AstraZeneca est désormais réservé aux plus de 55 ans.
On n'y comprend rien du tout. Alors que ce soit avec de l'AstraZeneca ou avec un autre vaccin, eux aimeraient bien se faire vacciner, tout simplement vacciner, et ceci vite. Ce sont les chauffeurs de bus et de taxi.
Oui, beaucoup demandent à intégrer la liste des personnes prioritaires. C'est ce qu'a pu constater pour RTL Gauthier Delombugat, reportage.
En tête de la file des taxis.
Moi, je désinfecte le véhicule après chaque passage d'un client. Portière, intérieur, extérieur.
Jonathan attend les clients dans sa berline noire.
On fait le maximum, mais après, le risque est toujours là pour moi. On transporte des gens constamment, à n'importe quelle heure. On a même le droit de transporter du personnel médical le soir. On a le droit de travailler la nuit. Donc pour moi, il me semble normal, comme pour les enseignants, d'avoir un accès peut-être prioritaire, un accès plus rapide au vaccin.
Un peu plus loin, la porte de Champéret.
Bonjour, Douron, s'il vous plaît.
Terminus de nombreuses lignes de bus.
Vous estimez que vous faites partie des professions qui sont les plus à risque ?
Bien sûr, par rapport à la vente du ticket et tout à bord. On a repris la vente, ça fait presque un mois là. Ça nous fait peur. On a des familles derrière, les parents, les enfants.
Olivier Davoise de la CGT RATP Bus espère une vaccination pour les chauffeurs.
Bien évidemment, nous sommes, comme tous les métiers, en première ligne ou en seconde ligne, demandeurs de vaccins. Mais pour le moment, nous sommes aussi lucides sur la situation. Des vaccins, il y en a très peu.
Certains employés de la RATP restent cependant réticents. Ils craignent notamment d'éventuels effets secondaires liés au vaccin. Masque, gel, nous sommes assez protégés, me dit ce chauffeur. Pas besoin de vaccination.
Reportage signé Gauthier Delombugat. C'était aujourd'hui le deuxième jour d'école à la maison. Un peu moins de couac qu'hier pour les connexions. Et ce, malgré une nouvelle attaque informatique la nuit dernière. Le parquet de Paris annonce d'ailleurs l'ouverture d'une enquête. Des cyberattaques qui interrogent. Le ministre de l'Éducation nationale a été interpellé tout à l'heure sur le sujet au Sénat. Interpellé par Ronan Le Gleut, sénateur LR des Français établi hors de France. Écoutez.
On se demande bien quel pirate informatique russe avait comme objectif de venir voler les cours de maths de CM1. La réalité est bien différente. C'est tout simplement, monsieur le ministre, que vous n'étiez pas prêt. Le président de la République a dit aux députés de la République En Marche « Soyez fiers d'être des amateurs ». Ce soir, vous devez être fiers de vous.
Votre petite boutade sur les cyberattaques russes montre à quel point vous ignorez le sujet. Bien sûr, il y a eu des imperfections. Bien sûr, il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Mais c'est totalement, je dirais, antipatriotique que de nier ce qui s'est passé de positif à ce moment-là.
Échange recueilli pour RTL par Marie-Bénédicte Haller. Les députés, eux, examinent demain une proposition de loi visant à instaurer un droit à l'euthanasie. Le sujet, vous le savez, fait débat au-delà des clivages politiques. Marine Le Pen l'a déjà prévenu, elle ne votera pas le texte.
Je ne voterai pas ce texte, mais je ne participerai même pas au vote. Parce que je trouve indécent. Au moment où nous nous battons pour sauver des vies, où des gens se battent pour ne pas mourir, je trouve indécent de choisir ce moment pour ouvrir le débat. Faut-il permettre d'apporter la mort ? Parce que quoi qu'on en dise, et quels que soient les jolis termes dont on entoure cela, ça reste cela, porter la mort. Donc discutons de cela, mais pas maintenant.
Marine Le Pen au micro RTL de Marie Mollet. On en parlera dans quelques secondes, hein, je vous le rappelle, avec Yaël Braun-Pivet, présidente de la Commission des lois de l'Assemblée. Pour l'instant, on marque une petite pause et on va donc s'intéresser à ce Sofagate. Le nom peut faire sourire, mais le sujet est très sérieux.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h09, la suite du journal Amandine Bégaud et les fouilles pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin se sont poursuivies aujourd'hui encore.
Les enquêteurs ont ratissé une vaste zone forestière à Issancourt et Rumel, c'est dans les Ardennes. C'est là que Monique Olivier les avait conduits la semaine dernière, comme l'explique ce soir son avocat.
Monique Olivier, à l'issue de sa déposition, elle a confirmé que Michel Fourniret était bien l'auteur de l'enlèvement, de la séquestration et de la mort d'Estelle Mouzin, et qu'il l'avait tuée, étranglée. Et que dans la nuit, il avait demandé, ou le lendemain matin, de demander à Monique Olivier de l'accompagner en voiture pour aller déposer le corps d'Estelle Mouzin. Elle a donné des endroits, un chemin sur lequel elle l'avait accompagnée. Elle était descendue, c'est lui qui conduisait, il avait emmené Estelle Mouzin à l'endroit qu'elle a désigné. Mais elle n'était pas obligée de le faire, et donc le fait d'aller plus loin et s'impliquer encore plus, et puis de dire comment elle savait où pouvait être l'endroit, c'était compliqué. Je pense que le fait que Michel Fourniret soit dans un état de santé qui ne lui permet pas de parler lui a fait comprendre que si elle ne disait rien, lui ne dirait rien. Et c'est pour ça que mercredi, elle a accepté de parler au juge d'instruction et qu'elle a accepté de dire tout.
Maître Richard Delgenès, l'avocat de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret au micro RTL de Samuel Goldschmidt.
Alors on en vient à cette histoire de Sofagate. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
La présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, demande une enquête après l'affront qu'elle a subi hier en Turquie. Bonsoir Bénédicte Tassard.
Bonsoir.
Une séance, on va dire, de machisme dans toute sa splendeur.
Ah oui, on voit le président turc Recep Erdogan, le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission entrer dans un salon salon du palais présidentiel turc. Les deux hommes se calent dans les deux fauteuils disposés l'un à côté de l'autre. Mais Ursula von der Leyen reste debout, les bras ballants, visiblement désemparée. Vous avez entendu les d'Ursula von der Leyen signifiant « il y a un souci », non ? La présidente de la commission qui se retrouve finalement sur un canapé en retrait. La présidente a été surprise, explique aujourd'hui son porte-parole, mais elle a préféré donner la priorité au fond et a joué son rôle. Et ce porte-parole de préciser que cet incident a justement poussé Ursula von der Leyen à se concentrer encore plus sur la question des femmes en Turquie pendant la conférence de presse qui a suivi l'entretien. Écoutez plutôt.
Je suis profondément inquiète du fait que la Turquie se soit retirée de la Convention d'Istanbul. Il s'agit de protéger les femmes et les enfants contre la violence et c'est clairement un mauvais signal en ce moment.
Alors, Charles Michel est aujourd'hui accusé d'être resté silencieux pendant l'incident.
Bah oui, ça n'a pas allumé une petite lumière.
Silencieux
chez lui, non, il s'est pas
et
mis un problème.
Assis. Recep Erdogan, lui, est montré du doigt pour cette mise en scène machiste et humiliante pour l'Union européenne. Un épisode qui a quand même dû le ravir.
Merci beaucoup, Bénédicte Tassard, spécialiste des questions européennes ici à RTL. Ça vous...
Ben moi, je ne comprends pas que Charles Michel, il y a un moment, se lève pas et dise pas « Excusez-moi, on a une chaise pour la dame. »
Un petit effet de surprise.
Ouais, enfin, un truc de bon sens, de correction, de je sais pas, de courtoisie, d'élégance. De...
Allez, je vous réconforte.
Ah oui.
La bonne nouvelle.
RTL Soir. La bonne nouvelle du jour.
Et ça va vous plaire, Thomas, vous souvenez de Pac-Man, le jeu vidéo mythique des années 80
Et toujours de Cassitron, c'est du Pac-Man.
Immortalisé par William Lémergie, c'est lui qui chante. Hein. Oui.
Il court, il roule, il est malin.
Et bien sûr. Et bien le revoilà, Pac-Man. Nintendo sort en effet demain une toute nouvelle version, sera disponible sur Nintendo Switch. Et c'est le même principe.
Dans la série,
sauf qu'on peut jouer
plus
en...
faire que du neuf avec du jeu.
Ouais, mais c'est pas mal. Moi j'aime
Vincent
bien.
Vincent Niclot juste avant qui reprenait du Goldman, c'était pareil, c'est très surprenant. Bon, laissons Vincent Niclot et William Lénergie. Et vous, on vous retrouve tout à l'heure.
Oui, 18h30. Okay.
À tout à l'heure. Dans un instant, donc, elle est en pointe dans le débat sur l'euthanasie. C'est la présidente de la commission des lois de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, dans RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
Elle est la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Elle est aussi députée en marge des Yvelines. Yael Braun-Pivet, donc l'invitée d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Yael Braun-Pivet.
Bonsoir.
Demain, vous, les députés, vous examinerez une proposition de loi visant à changer les règles de la fin de vie, en clair, pour autoriser l'euthanasie. Vous, vous y êtes favorable à cette autorisation de l'euthanasie. Pourquoi ?
Alors moi, je suis favorable à, effectivement, que notre législation prévoit une aide active à mourir. C'est comme ça que nous l'appelons. Nous estimons que les lois qui sont aujourd'hui en cours dans notre pays, donc la fameuse loi Claeys-Leonetti, est insuffisante, qu'elle ne couvre pas toutes les situations et qu'elle ne couvre pas toutes, qu'elle ne répond pas à toutes les volontés.
Pourtant, elle autorise
la
sédation profonde, parfois jusqu'à la mort, cette loi.
Tout à fait. Mais nous souhaitons, en cas de maladie grave et incurable, quand les souffrances nous souhaitons effectivement que une personne puisse exprimer très clairement et de façon expresse le choix de finir sa vie et de ne pas attendre d'être parfois dans cette espèce d'hypocrisie qui est la sédation profonde qui peut durer quand même pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Ça veut dire, Yael Braun-Pivet, que vous êtes pour ce qu'on appelle le suicide assisté.
Alors, nous l'appelons encore une fois l'aide médicale active.
Parce qu'on est beaucoup dans l'hypocrisie, dans les mots, mais c'est ce que ça veut dire.
Les mots, c'est permettre à un individu de pouvoir choisir le moment de sa mort lorsqu'il est atteint, lorsqu'il remplit certaines conditions. Il faut être très clair. C'est ça aujourd'hui que l'on souhaite, c'est replacer l'individu au cœur de la décision. Donc c'est lui donner cette liberté et cette liberté de choix qui n'est pas entière aujourd'hui et nous souhaitons aujourd'hui offrir cela à nos concitoyens,
ce droit.
Qu'est-ce
que vous répondez à ceux qui disent attention aux dérives ? L'article 3 par exemple, de la proposition de loi parle de la souffrance psychique. Mais comment on va évaluer la souffrance psychique ? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de manipulation dans tout ça ?
Alors au départ, on parle quand même dans l'article 1er de maladies graves et incurables. Donc il ne s'agit pas uniquement de souffrance psychique. Il faut que au préalable il y ait cette maladie grave et incurable.
Qui seront pris en compte.
Qui seront pris en compte quand la personne est atteinte d'une maladie grave et incurable. Il faut être très précis parce que certains disent il suffirait que quelqu'un soit atteint d'une grave dépression pour pouvoir rentrer dans ce cadre-là. Ça n'est pas le cas. Après, nous avons prévu dans notre proposition de loi qu'il y ait 3 médecins qui puissent examiner si les conditions que le législateur est en train de fixer sont remplies et s'appliquent, et que la personne est bien capable de décider, qu'elle exprime bien un consentement de façon expresse. Donc nous mettons tous les garde-fous, et c'est justement le débat parlementaire qui va permettre de discuter de ces conditions, de ces garde-fous. Moi, je rappelle qu'en commission des affaires sociales, nous avons obtenu un assentiment de tous les groupes politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Nous avons un consensus aujourd'hui qui est très transpartisan sur justement les conditions dans lesquelles on pourrait ouvrir ce droit.
On va y venir, mais vous dites que ça va être tranché demain lors d'un débat, c'est une proposition de loi, un débat de 3 heures. Il y a plus de 3000 amendements qui ont été déposés. Est-ce qu'un sujet aussi important peut se trancher en 3 heures? Est-ce que c'est bien sérieux? Est-ce que ça ne mérite pas plus de temps de se poser, d'écouter les uns, les autres? Est-ce que ça peut se trancher en une après-midi?
Alors, on entend beaucoup ça.
C'est factuellement exact.
Alors, c'est factuellement exact et inexact. La première proposition de loi en la matière, elle date de 1978. Donc moi, quand on me dit on va en débattre en 3 heures, ça n'est pas exact. On en débat depuis 43 ans en France. La semaine dernière, nous en avons débattu pendant 7 heures en commission des affaires sociales. Et demain, nous aurons plus que 3 heures, nous aurons au moins 2 séances de l'Assemblée, donc 6 ou 7 heures. Je rappelle que la loi Leonetti a été examinée en 2 séances de l'Assemblée nationale.
Donc pour vous, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut faire ça?
Pour moi, le moment, c'est quand une société est mûre. Et il me semble que lorsque l'on voit que 272 parlementaires sont capables de signer une tribune commune, quel que soit leur parti, pour demander un débat et un vote, c'est un signe. Lorsque l'on reçoit des centaines de témoignages, c'est ce que je reçois depuis que j'ai pris position pour ce droit publiquement, je reçois des centaines de témoignages qui me disent « il est temps, et je crois à tout le moins qu'il est temps d'en débattre et que la représentation nationale vote sur ce sujet. Nous sommes l'expression de la nation, de la volonté des citoyens. Donc laissez-nous voter. »
Vous êtes un personnage important de la Macronie en tant que présidente de la commission des lois. Il ne vous a pas échappé que le ministre de la Santé, par exemple, ne vous suit pas sur cette question, qu'au gouvernement, on ne vous suit pas complètement. On dit « bon, on va laisser faire, on va voir ce qui se passe. » De toute façon, il y a une obstruction des députés Les Républicains qui ont déposé 2300 amendements. On vous a reproché cette position dans la majorité, dans votre famille politique ?
Non, personne ne me l'a reproché parce que c'est une position qui correspond à des convictions, convictions profondes, et je crois que faire de la politique, c'est ça. C'est endosser ses convictions, les porter et essayer de convaincre les autres. Et je crois que personne, en tant qu'homme ou femme politique, peut reprocher à un autre homme ou une femme politique de porter ses convictions.
Une civilisation qui légalise l'euthanasie perd tout droit au respect. C'est ce qu'a écrit Michel Houellebecq dans une tribune au Figaro. Vous lui répondez quoi ?
J'ai vu ça, donc il faudrait aujourd'hui considérer que les Belges, les Suisses, les Espagnols, les Portugais, les Canadiens ont perdu tout droit au respect. Je crois que, franchement, vos auditeurs pourront partager avec moi l'absurdité de cette affirmation.
Autre sujet, les régionales, Yann Brown-Pivet. On ne sait toujours pas quand elles auront lieu, ces régionales. Vous êtes présidente de la Commission des lois, encore une fois. Est-ce qu'il faut les maintenir au 13 et 20 juin?
Alors, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, elles auront lieu le 13 et le 20 juin. Nous avons voté une loi pour cela, pour les organiser ces jours-là. Et le gouvernement a pris des engagements pour ce faire. On verra après si les conditions sanitaires doivent nous permettre d'ajuster les conditions de vote le jour du scrutain, les conditions de campagne électorale.
Mais pour vous, il n'y a pas de doute, on votera les 13 et 20 juin, c'est réglé?
Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui dans notre droit, finalement, c'est un vote en juin. Maintenant, le Premier ministre a souhaité réinterroger, compte tenu de l'évolution des conditions sanitaires, l'ensemble des partis politiques. Donc nous verrons ce que donne cette consultation, mais aujourd'hui, l'état du droit, c'est des élections en juin. Et ma position personnelle à moi et en tant que présidente de commission des lois, c'est que la démocratie doit suivre son cours et nos compatriotes doivent pouvoir s'exprimer dans les urnes.
Il ne faut pas redécaler les dates de ces élections régionales.
À mon sens, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a aucune raison, à mon sens, de décaler à nouveau ces élections.
Ce serait une faute politique de le faire ?
Il faut voir si on arrive à avoir un consensus dans un sens différent. Mais je crois aujourd'hui qu'en l'absence de consensus, il faut qu'elle se tienne.
Vous faites partie, vous, de ces politiques qui ont émergé à la faveur du macronisme. La République En Marche, le parti, fête ses 5 ans. Qu'est-ce qui reste du souffle de ses débuts ?
Je ne voudrais pas être vaniteuse et vous dire nous, parlementaires, nous sommes une majorité vivante qui défend des textes comme celui que nous défendrons demain dans l'hémicycle, donc des textes importants. Il reste
ça existait avant, et pardon, ça existera après, hein, défendre des textes dans l'hémicycle.
Alors, c'est... peut-être que la fin de vie, on va peut-être aboutir et terminer ce débat. Mais non, je crois qu'on a on a rénové la vie politique. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on a apporté ce vent nouveau, on a apporté beaucoup de féminisation, de parité, de nouveaux visages, de nouvelles pratiques.
Je voudrais que vous ayez reçu les mêmes éléments de langage que tout le monde.
Tout le monde
dit ça sur En Marche depuis. Ça a changé la politique ou pas? Voilà, c'est ça la question. Vous vouliez changer la politique. Est-ce que ça a changé la politique ou pas En Marche?
Je crois qu'on n'a pas... On a apporté notre pierre à l'édifice. Changer la politique, malheureusement, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il ne suffit pas d'être de nouveaux visages ou d'avoir de nouvelles pratiques pour la changer. C'est un ouvrage collectif. Moi, je me suis engagée parce que je croyais surtout au dépassement des clivages. Et c'est pour ça, finalement, que le débat sur la fin de vie, finalement, me tient tant à cœur. Parce que, justement, sur ce débat-là, nous arrivons à dépasser les clivages. Et je crois que en tout cas, c'est important pour nos concitoyens d'arriver à se réunir. Ouais. On voulait le faire sur la crise, sur l'état d'urgence sanitaire, sur la crise sanitaire. On n'a pas réussi, malheureusement. Et je crois qu'il faut qu'on œuvre tous en ce sens-là.
Vous continuerez, vous, la politique l'an prochain, quoi qu'il arrive ou pas?
Je pense, oui, parce que c'est passionnant et parce que, en fait, ça vous remplit d'un sentiment d'utilité vis-à-vis de vos concitoyens qui est tellement gratifiant que, effectivement, je crois qu'une fois que vous connaissez ce sentiment-là, il vous tient et ce sentiment d'être utile, d'apporter votre pierre à l'édifice, encore une fois.
Et pour 2022, vous êtes plutôt Doudou ou plutôt Manu?
Moi, j'ai une reconnaissance infinie pour Emmanuel Macron, puisqu'il m'a permis d'être assise devant vous aujourd'hui en tant que président de la Commission des lois.
Donc ça, c'est la reconnaissance du ventre, ça?
C'est la reconnaissance... Non, parce que c'est une reconnaissance... Il nous a donné notre chance. Il nous a donné notre chance. Il nous a permis de prendre nos responsabilités, d'agir. Et ça, je crois qu'il a été le seul à le faire à ce point. Et moi, il y a 4 ans, on parle de l'anniversaire d'En Marche. Moi, j'étais au Resto du Cœur. Je servais de l'alimentation pour les personnes défavorisées. Maintenant, je préside la Commission des lois et c'est grâce à Emmanuel Macron qu'on peut avoir ces aventures-là. Et je pense que c'est ce que nos concitoyens aussi attendaient du renouvellement politique.
J'ai une toute dernière question. Est-ce que c'est vrai que vous avez congédié votre chauffeur?
Alors, je ne l'ai pas congédié, mais je m'en suis séparée depuis plusieurs mois, effectivement. J'ai trouvé que c'était plus simple et plus, finalement, normal d'être... Je n'aime pas le mot normal. Oui. Mais voilà, je suis bien mieux comme avant.
Il n'y a plus de chauffeur, il n'y a plus d'escorte, vous faites tout vous-même.
Alors, je fais tout moi-même et je trouve que c'est particulièrement sain. Ce n'est pas démago, mais c'est juste quelque chose qui me correspond mieux.
Vous pensez que d'autres devraient s'en inspirer ou pas?
Non, c'est vraiment quelque chose de très personnel et donc je ne veux pas impulser quelque chose et je ne veux surtout pas critiquer ceux qui ne le font pas. Mais en tout cas, voilà, moi je me sens mieux comme ça et je crois que aussi quand on fait de la politique, il faut être bien aligné avec ce qu'on est et c'est ce que j'essaye de faire.
Merci beaucoup Yaël Braun-Pivet d'être venue ce soir dans RTL Soir. Merci à vous.
Merci à vous.
À suivre, l'œil de Valérie Trierweiler qui a décidé d'organiser les primaires pour la présidentielle de l'an prochain et on me murmure dans l'oreillette qu'elle vient de prendre un Doliprane.
RTL Soir.
Il est pile 18h30.
RTL Soir avec Thomas Soto
et Amandine Bégaud pour le rappel.
Et l'Agence européenne du médicament confirme ce soir un lien possible entre thrombose et AstraZeneca. Pas question pour autant de renoncer au vaccin. La balance bénéfice-risque reste en effet très très largement positive. C'est aussi l'avis ce soir de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Au rayon politique, LR plaide pour un maintien des élections régionales programmées au mois de juin prochain. Dans un courrier adressé au Premier ministre, les Républicains demandent toutefois un protocole adapté pour concilier, je cite, impératifs sanitaires et exigences démocratiques. Les différents partis ont jusqu'à demain soir pour faire connaître leur position sur le sujet. Puis il y a du foot ce soir, Bayern-PSG, quart de finale aller de la Ligue des Champions. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur RTL dès 20h45.
La météo Peggy pour demain, ça sera stationnaire, hein, beau et froid.
Exactement, c'est vrai, on aura encore de nombreuses gelées, assez fortes par endroits d'ailleurs, moins 6 à Nevers, moins 4 à Limoges, moins 3 degrés prévus à Dijon, Reims et Auch, moins 1 à Brest. Alors bonne nouvelle, les maximales seront en hausse, ça fera du bien, comprise entre 10 et 15 degrés au nord, 15 à 22 au sud, et cette fois on repassera au-dessus des normales au sud. Côté ciel, un beau soleil au sud de la Loire, un ciel un peu plus variable au nord, voire plus nuageux dans l'après-midi au nord de la Seine.
Merci Peggy. Nous sommes mercredi, c'est l'œil de Valérie Trierweiler qui s'ouvre sur l'actualité. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Thomas.
Alors non, vous n'allez pas nous parler des bugs de l'enseignement ce soir à l'école primaire, mais plus simplement des primaires.
Oui, bah remarquez, il va peut-être y avoir un bug aussi concernant les primaires pour la présidentielle. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps, on a vu beaucoup de candidats ou de potentiels candidats avancer leur pion pour cette élection.
Oui, c'est moins il y a déjà des bouchons, hein, il y a déjà embouteillage.
Exactement. Alors à la surprise générale, on a eu l'annonce de Xavier Bertrand qui avait pourtant conditionner sa candidature à son élection à la tête des Hauts-de-France. Et vous avez vu que dans les Hauts-de-France, la gauche a réussi à s'unir, ce qui rend son élection moins assurée.
Du coup, vous pensez que c'est ça qui l'a fait accélérer son calendrier présidentiel ?
Alors, pas seulement, Thomas. Comment ne pas voir dans l'arrivée du jeu médiatique Édouard Philippe qui fait un tour de piste pré-présidentiel. Là, les choses se compliquent parce qu'Édouard Philippe, il a précisé qu'il n'appartenait pas à la majorité présidentielle, on le sait. Il fait partie de la famille des Républicains, oui. Même famille que celle de Xavier Bertrand. Donc voilà, c'est un caillou sur son chemin. Et ce dernier, il a bien spécifié qu'il ne passerait pas par la case primaire. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui veulent y passer par la case primaire. On a bien Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez.
Oui.
Mais bon, on ne les prend pas tellement au sérieux, ces deux-là. Mais on a la nette impression maintenant que les primaires en vue de 2022 ont déjà pris l'eau.
J'imagine qu'ils vont apprécier Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez que vous ne les preniez pas au sérieux. Bon, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, alors ?
D'abord, la situation sanitaire, elle risque de reporter la campagne présidentielle au plus tard possible. Pas avant mars 2022. C'est à ce moment-là qu'Emmanuel Macron saura vraiment s'il est en mesure de se représenter. Mmh. Pour le moment, il met tout en place. Mais, on verra bien. Pour l'instant, il est donc très difficile pour les partis d'opposition de s'organiser. Est-ce qu'on reviendra à la situation classique du droite-gauche ?
Oui.
Possible. Alors, le meilleur candidat d'aujourd'hui n'est pas forcément celui de demain. Et puis, souvenez-vous, les dernières primaires, ça a été la cata totale. Un véritable fiasco. Fillon avait été désigné pour la droite, Hamon pour le PS. Aucun n'a été présent au deuxième tour. Alors à quoi ça sert ? La primaire n'est absolument pas une garantie de désigner le meilleur candidat. Je vous rappelle également que certains candidats éliminés à la primaire, comme Valls, n'ont pas respecté l'engagement à soutenir le vainqueur.
Bon, et du côté de la gauche, qu'est-ce qui va se passer ?
Alors là, une primaire à gauche, ça n'aurait de sens que s'il s'agit de désigner un candidat commun. Et ça, c'est pas gagné. Alors Jean-Luc Mélenchon a annoncé lui aussi sa candidature et il est l'un des mieux placés pour l'instant à gauche. Le leader écologiste, Yannick Jadot, a appelé à une convergence des partis de gauche, hein, mais il n'est pas le seul du côté écolo, hein, il y en a d'autres. Et on ne parle pas encore de candidature unique, mais d'une première réunion qui devra avoir lieu d'ici 15 jours. Mais ce sera sans la présence d'Anne Hidalgo qui avance à peine masquée, hein, même si le masque est obligatoire. Le Parti Socialiste est divisé sur
il
la marche à suivre.
Il est obligatoire, mais il ne cache pas toutes les intentions, effectivement.
Alors, le PS est divisé comme d'habitude. Il n'a pas de stratégie. Il n'a pas de candidat, il n'a pas de programme, mais il a déjà une porte-parole pour la présidentielle.
Ah bon ?
En la personne de Johanna Roland, la maire de Nantes. Ça s'appelle de l'art de mettre la charrue avant les bœufs.
Mais quand la gauche n'a pas de candidat, c'est pas François Hollande qui gagne à la fin ?
Non, on verra bien.
Bon, merci beaucoup Valérie Trierweiler. Demain, on retrouvera Philippe Cavrivière.
Ah, Philippe.
votre époux radiophonique. Il ne gagnera pas The Voice, Philippe, non plus, mais il a marqué la saison. Dans un instant, Luc Laversanne est l'invité d'RTL Soir. Prenez le temps d'écouter et d'entendre ce que ce garçon a à dire.
RTL Soir.
Thomas Soto.
RTL Soir.
C'est l'histoire d'un mec, aurait dit Coluche, un sacré mec, ajouteront ceux qui l'ont vu et entendu dans The Voice, un mec qui sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, un mec qui a pris des coups mais qui a toujours voulu se relever, un garçon qui a saisi les millions de téléspectateurs de l'émission quand il s'est présenté à eux en interprétant ceci.
Amis entendus, le vent noir du corbeau sur nos plaines.
Chanson du partisan.
Amis entendus, les cris sourds du pays qu'on enchaîne.
Ce mec, c'est vous, Luc Laversanne. Bonsoir et bienvenue à vous dans RTL Soir. Le chant des partisans, l'hymne de la résistance lors des auditions à l'aveugle de The Voice, il fallait oser. Pourquoi vous avez fait ce choix qui a marqué tout le monde, hein, pour le coup.
J'ai fait ce choix. Je faisais partie d'une fanfare étant petit. On faisait beaucoup de commémorations d'anciens combattants. Et à chaque fois que j'entendais soit le chant mort ou le chant des partisans, j'étais toujours fasciné. Et on faisait que jouer musicalement, mais on l'a jamais chanté. Et le jour où j'ai découvert les paroles, je fais oh, c'est puissant quoi.
Ouais.
Et depuis, je l'ai dans la tête et je chante au moins une fois par semaine.
Donc, et là, vous l'avez chanté, ça a touché au cœur à Marc Lavoine qui avait les larmes aux yeux. Il s'est retourné. Ça aurait changé quoi pour vous si ce soir-là, Lavoine s'était pas retourné, elle n'avait pas appuyé sur le buzzer là.
j'aurais dit tant pis, c'est le jeu. Ouais. Vraiment, vraiment, j'aurais été déçu comme tout le monde, parce que les présélections, c'est long, c'est éprouvant. Et arriver sur le plateau de The Voice, c'est de se dire que personne ne se retourne. Là,
c'est dur quand même.
J'aurais été déçu, déçu. Je ne vous cache pas, j'aurais pleuré comme d'habitude. Mais
j'ai eu envie de vous inviter, Luc, ce soir, parce que vous m'avez touché, vous et votre parcours de vie atypique, chaotique. Votre vie, c'est un peu le champ des résilients, pour le coup. Vous êtes né dans le Cantal, mais vous avez grandi en Lozère. Déjà, comment c'était l'enfance de Luc Laversanne ?
Génial.
Ouais.
Ah oui, j'ai clairement pas à me plaindre. Être né dans le Cantal, grandir en Lozère, je pense que j'ai pu avoir la meilleure des éducations. J'ai manqué de rien. On pouvait gambader comme on voulait dans la nature, on n'avait pas forcément de couvre-feu. Une vie simple, dans un collège simple, avec des amis simples. Ouais. Et voilà quoi.
Et à 7 ans, c'est le trombone.
J'ai appris le trombone très tôt. J'ai pris mes cours de musique à Saint-Flour. Après, j'ai intégré un conservatoire bien plus tard, mais j'ai dû arrêter à cause des problèmes qui sont arrivés par la suite. Mais j'ai clairement pas à me plaindre de mon enfance.
Et vous rêviez de quoi, gamin ?
Devenir crooner.
C'est vrai ? C'est original. À 7-8 ans, vous vouliez être crooner.
Vraiment. Soit gendarme, parce que mon papy était gendarme.
Ouais.
Ou alors crooner. J'ai toujours été fasciné par Frank Sinatra. Et cette classe. Et honnêtement, je dis, c'est le truc parfait pour draguer les gens. Quoi. Et donc, non. Je pense que maintenant, mon style, c'est plus dans la mélancolie.
C'est plus crooner que la gendarmerie, quand même.
C'est plus crooner là.
Alors vous dites draguer les gens, pour draguer les gens, c'est bien d'être crooner. Vous aimez draguer les garçons, vous êtes homosexuel, vous le savez très tôt. Mais quand vous l'avouez à vos parents, ça se passe comment ? Vous avez 18 ans, comment ils réagissent ?
Mon père n'a pas eu spécialement de réaction, parce que il nous a sensibilisés sur l'homophobie, mes deux frères et moi.
Ouais.
Donc moi, si j'ai fini par partir de la maison, parce que divergence entre lui et moi, et ça s'est terminé comme ça. Après, j'ai atterri chez ma mère, et là, c'était une autre paire de manches.
Elle vous a quasiment mis dehors, pour dire les choses.
Voilà, elle arrivait pas à me gérer. J'étais pas un enfant facile aussi.
Ouais.
Et cette nouvelle en plus, la saturée va-t'en quoi.
Va-t'en, et ça veut dire que le petit garçon qui était tellement heureux dans le Cantal et en Lozère, il devient sans abri, il devient SDF pendant 6 ans. À quoi elle ressemble votre vie à ce moment-là ?
Du jour au lendemain, on nous fait une promesse. J'ai dit, viens chez moi, j'ai une maison, tu auras ta chambre, tu pourras te trouver un emploi. Je suis sorti d'une voiture, j'étais tellement fatigué que j'ai même pas fait attention là où j'ai atterri. Le lendemain matin, je me retrouve dans une chambre délabrée, tapisserie moisie, dans
Mais
un
qui vous avez fait cette promesse ?
C'est mon frère.
Votre frère ?
J'en parlerai pas plus longtemps, mais c'est mon frère.
Mais le résultat, c'est que vous passez 6 ans dans la rue à vivoter, à aller parfois chez les uns, chez les autres.
Voilà. 2-3 ans en squat, j'ai été hébergé par des gens qui ont été bienveillants. Je tiens aussi à dire que si j'ai réussi à m'en sortir, c'est qu'un policier a eu le cœur sur la main et m'a hébergé chez lui pendant 2-3 mois. Et j'ai
pu
m'en
sortir.
Ça m'a remis en selle.
Et alors là, ça vous remet en selle et vous finissez par arriver. On fait un peu des raccourcis parce que votre vie, on pourrait faire des chapitres et des chapitres. On arrive sur le plateau de The Voice. Malheureusement pour vous, l'aventure s'est terminée lors des Battles, reprise de Né quelque part de Maxime Le Forestier.
Des oiseaux de passe-cour et des oiseaux de passage.
Donc les Battles, ce sont des duos. Là, c'est vous qui chantez. Vous avez été éliminé. Puis vous avez été repêché par Vianney, qui vous a ensuite remplacé par un autre talent. Devant sa télé, on vit ça comme un jeu. Intimement, comment vous avez vécu la sortie de The Voice ? Vous retenez quoi ? L'ivresse des débuts ou la brutalité de la chute ?
Les débuts, on est dans l'expérience. De toute manière, il faut se préparer soit à rester, soit à partir. Ces 4 sièges alignés, on attend, on voit tout le monde passer devant nous. Et on est dans l'attente d'entendre le buzz.
Oui.
On se dit, pourvu que ça tombe pas sur moi, pourvu que ça tombe pas sur moi. Et là, j'ai vu le visage de Vianney. Je me dis, et là, je fais buzz pas. Buzz pas, Vianney, buzz pas. Et là, j'entends le...
Ouais, le voilà.
Ça, c'est très bien.
Oh, c'est produit ici, c'est vrai. Et bien justement, Vianney, il a quelque chose à vous dire.
Hello Luc, c'est Vianney. Écoute, je voulais juste passer un petit coucou. Et puis surtout te dire quelque chose qui me reste évidemment sur le cœur. Toi et moi, j'ai tellement le sentiment qu'on s'est loupé deux fois. Et pourtant, et en coulisses et par écrit, on se l'est dit. Tu sais toute l'affection que j'ai pour toi, tout le respect même. Donc très simplement, je voulais savoir quels étaient tes projets. Qu'est-ce que tu allais nous proposer? Parce que ça, pour le coup, j'ai pas envie de le manquer. Voilà, je t'embrasse. À bientôt.
Mais il vous fait pleurer, Vianney.
Ouais, je suis quelqu'un de très sensible. Mais je vais écrire. On me pousse à écrire et je vais me motiver. J'ai envie d'écrire sur l'homophobie, le racisme, les injustices de la vie de tous les jours. Là, je suis à peine arrivé 10 minutes à Paris, j'ai vu plus de 15 SDF, quoi, et ça me révolte.
Donc vous avez envie d'être utile, en fait?
Ouais. Ouais. Oui, vraiment. Vraiment, j'ai envie de partager ce que j'aime faire et si ça peut être en chanson, ben, ce serait super bien, quoi.
Bon, le temps que vous séchiez un tout petit peu vos larmes, il y a quelqu'un d'autre qui a une question pour vous. Il s'appelle Marc, je crois, Marc Lavoine.
Ma question est simple. Est-ce que tu pourrais éventuellement penser à un spectacle et pourquoi pas un disque avec les textes poétiques? Ça peut être Lorca, ça peut être Druon, ça peut être évidemment aussi Aragon, Éluard. Et les chansons qui ont jalonné, qui ont raconté notre histoire et la transmettre me paraît une bonne idée. As-tu envie d'un tel projet? Voilà. Je t'embrasse. En tout cas, si t'en as pas envie, moi j'aimerais bien que tu le fasses. Voilà.
Ce serait vachement cool, quoi. Ouais, ça me plairait. Ça me plairait. Oui, je pense à... Il y a plein d'idées. Dans la vie, on me dit que je suis quelqu'un de drôle.
Ouais. Alors,
mélanger du coup l'humour et la chanson... Ça me plaît encore plus, quoi. Vraiment. Ouais. Vraiment.
Et vous sentez quand même qu'ils ont envie de vous tendre la main, les deux, là?
Oui.
Ça s'est passé. Honnêtement, c'est pas de la com, ils sont pas obligés de le faire, là, ce soir.
Ce matin, j'ai reçu un message de Vianney.
Ouais.
Plein de gentillesse. Je vais le garder pour moi, ce message. J'ai pas envie de le partager.
Vous avez raison.
Pour moi. Marc m'a téléphoné il y a deux jours. J'étais sous la douche. J'avais pas enregistré son numéro. Et je fais, c'est qui? C'est Marc. Oh, pardon. Du coup, voilà. Mais il m'a donné des conseils. Et c'est ça qui est bien avec Marc aussi. C'est que j'ai quitté l'aventure, mais il a pris le temps de téléphoner, de prendre de mes nouvelles, de savoir comment je me sentais. Ouais, mais c'est un grand homme, quoi. Oui. J'ai l'impression qu'il est aussi sensible que moi, quoi. Oui. Donc,
vous voilà. Avez fait pleurer Peggy, hein, qui est en face, là, qui pleure en même temps que vous. Vous êtes noir, vous êtes costaud, vous êtes homo. On aime bien se raconter que notre société est ouverte à la différence. Quand on est directement concerné, est-ce que c'est aussi simple que ça, Luc?
Non, c'est pas simple. Non, c'est pas simple, pas du tout. Il y a le regard des gens. C'est dur de chercher du boulot et quand on voit Luc Laversonne sur un CV, ça passe très bien.
Oui.
Mais quand on voit la tête du personnage, je dis désolé, la place est déjà prise.
Oui.
Ça existe encore ça aujourd'hui. Quand je dis à des gens autour de moi que je suis homo, on avait une conversation hyper fluide 5 minutes avant et tout d'un coup, il me parle plus. Donc non, c'est pas facile.
Ouais.
C'est clairement pas facile. J'ai l'impression de revoir le regard des gens que j'avais quand j'étais à la rue, quoi.
Ouais.
Voilà. On a l'impression d'être à moins.
Moi, j'ai envie de vous dire, changez pas, soyez vous.
Ah, mais je changerai pas, vraiment, mais pour rien au monde.
Par contre, vous crânez un peu, vous êtes fan des musiques de Disney, machin. On va quand même faire un petit quiz. C'est quoi ça?
C'est moi, le roi Lion.
Le roi Lion, ouais, ok. Un point. Après, première. Suivant.
Ah non. Non, la belle et la bête.
C'est la fête. Ouais. Service garanti.
Encore une, tiens.
Mettez votre petite bavette.
Coco.
Oh, il est fort.
Ne m'oublie pas.
J'adore.
Je vais devoir m'en aller. Ne m'oublie pas. Tu ne dois pas pleurer. Même si je suis très loin de toi, tu restes dans mon cœur. Je chante en secret chaque soir pour que tu n'aies plus peur. Ne m'oublie pas. C'est c'est à regret que je pars. Ne m'oublie pas quand tu entendras une guitare. Je suis près de toi, même si toi tu ne me vois pas. Quand je chante, tu es dans mes bras. Ne
du tout envie de vous oublier. Merci Luc Laversane, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à RTL Soir.
Merci beaucoup.
Je sais que la galère rôde toujours un peu, donc vous avez lancé une cagnotte Litchi pour ceux qui peuvent ou qui veulent vous aider, n'hésitez pas, toutes les infos sont sur votre compte Insta. Hein.
Luc, c'est ça.
Laversane, The c'est Voice ça. 10.
C'est ça.
Merci,
c'est
bonne
long,
chance. Hein. Merci beaucoup. Merci infiniment.
Merci.
Dans un instant, la culture de l'actu.
RTL Soir.
Thomas Soto, RTL Soir.
18h53, on va se prendre un peu pour Peggy Broche. Hein. Depuis plusieurs nuits, il fait très froid. Des bougies sont placées dans les vignobles pour les sauver du gel. C'est un sujet très sérieux. Bonsoir Julia Molcou.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Vous êtes dit que bah, tiens, c'était l'occasion de parler de la vigne et du vin dans la culture de l'actu ce soir.
De père en vigne, la voilà la jolie vigne. Vigne, vigne, vigne dans le vin. La voilà la jolie vigne au vin.
Au commencement était le dieu de la fête, de la démesure, des vignes et du vin. On l'appelle Dionysos chez les Grecs, Bacchus chez les Romains. Il est le fils de Jupiter et il est placé sous la protection des nymphes de Nysa. Il grandit dans une grotte protégée d'une vigne dont il mange les fruits. Souvent représenté la tête couronnée de lierre, un air rieur, une grappe de raisin dans une main, un bâton orné de vigne dans l'autre et bien sûr un peu, voire tout à fait ivre.
Quand je suis paf, 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 ça me chatouille le
ah, ça nous change du duo coco. Hein. Alors ça, c'est Marguerite Deval et ça date de 1932.
Ah oui.
Alors le vignoble est partout dans la culture. On a retrouvé des jars à vin décorés datant du Xe siècle avant Jésus-Christ. De très grands peintres se sont emparés du sujet. C'est le cas du Caravage qui a peint deux fois Bacchus ou encore Van Gogh à qui on doit trois paysages de vignes. En 2009, le prix du meilleur livre sur le vin est attribué à un manga japonais qui s'appelle Les Gouttes de Dieu et qui est un manga extraordinaire qui raconte l'histoire d'un jeune orphelin qui part à la recherche du vin idéal. Enfin, le monde viticole est aussi un fabuleux décor de cinéma à l'image de la si joyeuse comédie Saint-Amour de Gustave Kerven et Benoît Delépine, à voir et revoir sans modération.
Chaque année, on fait la route des vins, mais sans sortir du salon.
Et chaque année, on change de route.
Voilà, et cette année, on a décidé de commencer par l'Est.
Ma chance.
Et croyez-moi, il vaut mieux nous avoir au début qu'à la fin.
On va la faire, ta route des vins, mon bonheur.
Poulevard des Depardieu, et Poulevard normalement ne fait la route des vins qu'au Salon de l'Agriculture. Cette D'accord. fois-ci, avec son père Depardieu, il partira sur les routes.
Bon, depuis toujours, les compositeurs et les chanteurs se sont eux aussi intéressés à la vigne et au vin. Hein.
Alors Lully faisait chanter à Bacchus le pouvoir consolateur du vin. Quant à Mozart, il offre un thème à la gloire du champagne dans Don Giovanni. Et évidemment,
là, il dit, je prendrais bien une coupette, c'est ça.
Il flatte le vin pétillant. Et évidemment, les chansonniers s'en sont eux aussi donnés à cœur joie, composant à tour de bras des chansons à boire. Et par exemple, au XVIIe siècle, on appelait chevaliers de la table ronde ceux qui restaient longtemps à table.
Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, goûtons voir.
Bon, et au début des années 1900, dans un quartier de Dijon, va naître l'air le plus célèbre de la Bourgogne. Ah, celui oui. qu'on chante à tous les repas de famille, mais aussi pour fêter les vendanges, aux mariages, aux anniversaires, bref, tout le temps. Amis bourguignons, nous vous saluons. Le fameux bon bourguignon, cher Peggy. Parmi les chansons.
Bien.
Ah, bah, je le connais très bien. J'ai une mère bourguignonne.
Elle connaît à peu près tout ce qui touche à l'alcool.
Oui, mais vous remarquez. Vous êtes gonflé, vous êtes gonflé.
Elle a été inventée avant le jeu avec modération. Elle. Allez-y, continuez.
Ça fera très plaisir à mes parents. Parmi les chansons à boire les plus connues des années 40, il y a bien sûr Ah, le petit vin blanc. Mais moi, ma préf, ça reste celle-là.
Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup.
Marcel Bordas. Et puis un autre Marcel, mais cette fois-ci en 1980, Marcel Hamon tentait sa chance lors des qualifications à l'Eurovision en vain.
Vigneron, vigneron, camarade vigneron, je te dis courage.
Le jeu de mots en vain, vous l'avez trouvé comme ça? Ou c'est des années de travail, c'est l'expérience?
Il m'est venu comme ça.
Ouais.
Alors voilà, on aimerait souhaiter bon courage à tous les vignerons pour cette nuit encore.
Ça,
ils vont tout tenter pour sauver leur vigne et leur future récolte. Quant à moi, je n'oublie pas que pour sauver ma place, il fallait que je trouve au moins une chanson de Jean-Jacques Goldman dans laquelle il aurait dit le mot vin.
Et alors?
Il en a écrit 218 des chansons et j'en ai trouvé une dans laquelle il dit bah, ça.
Il y aura
des jardins.
Ah oui.
L'amour et du pain.
L'album rouge.
Ouais. Incollable. Mmh. Attention, ça arrive, c'est maintenant.
Ouais.
Les chansons du vin. On manquera de rien.
Je n'ai trouvé. Ouais, il y a.
Il y aura du soleil sur nos fronts.
Je crois qu'on s'arrête là.
Plein avec les chœurs de l'armée rouge. Superbe cet album.
Il nous a oublié, Julien. Complètement. Et là, ma chronique, c'est fini. Terminé. Je suis même plus alcoolique. C'est fini.
Allez faire votre alco-test, vous.
Désolé pour la météo, pays.
On va du temps pour rire et s'aimer.
Vous savez que vous êtes filmé.
Plus aucun enfant.
Vous ne me collerez jamais.
Mais il n'en était pas question, je voulais juste vous faire plaisir.
Mais oui.
Et garder ma place. Trouver tous les jours un mot dans la culture. Alors je vais et chanter.
Bravo.
À demain.
La fin de l'histoire.
On fera la météo après le jour.
Oui, j'ai bien compris, vous inquiétez pas.